Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel, nous sommes dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire, l'iconographie et j'ai le plaisir d'avoir avec moi dans le studio Patrice Calvel qui est architecte en chef des monuments historiques et responsable de la cathédrale de Chartres. Le sujet de notre émission aujourd'hui, car nous allons parler, après une première émission que nous avons faite sur la conservation de la pierre dans un monument historique, nous allons cibler aujourd'hui sur la conservation et la restauration des vitraux. Bonjour Monsieur Calvel.
Bonjour madame.
Mais on va peut-être prolonger notre entretien dans une première émission menée sur la conservation de la pierre, car vous aviez tellement de choses intéressantes à nous dire. On parlait des restaurations du 19e, vous vouliez peut-être ajouter qu'il faut...
Oui, qu'il ne faut pas que le hasard des changements, des restaurations que nous avons pratiquées à Notre-Dame de Chartres, ne signifie pas qu'il fallait diaboliser systématiquement les restaurations du 19e siècle. On a beaucoup daubé sur Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc a été un remarquable archéologue, un remarquable initiateur de l'art du Moyen-Âge à un moment où on ne le comprenait plus. Et malheureusement, on lui fait porter le chapeau, pour parler brutalement, d'énormément d'erreurs qui ont été commises par ses suiveurs, n'est-ce pas, dans tout le 19e siècle. Et effectivement, ce n'est pas lui qui avait restauré Notre-Dame de Chartres. Donc, raison garder.
Voilà. Donc, vous vouliez peut-être rappeler que les couches de badigeon du 19e siècle ont permis de sauvegarder le fabuleux décor du 13e.
On est en train de restaurer les voûtes du haut cœur de la cathédrale. Et on savait, par des études menées par Guinicot au début des années 90, avec l'aide de Brice Moulinier, qui est un peintre restaurateur d'une très grande science, que le décor d'origine, le décor peint, le décor coloré d'origine de la cathédrale était gardé et conservé à plus de 80% sur les murs et les voûtes de la cathédrale. Et c'est un décor qui est fait d'un enduit, coloré uniquement par le choix du sable, qui est un sable du Perche, et avec l'adjonction d'un décor, ce qu'on appelle un décor à coupe de pierre, c'est-à-dire des bandes peintes en blanc qui imitent, si vous voulez, un appareil de pierre. Bon, ce décor couvrait la totalité de la cathédrale, les colonnes, enfin tous les membres, si vous voulez, de la modénature, les colonnes, les bases, les chapiteaux, étant simplement peints en blanc, mais sur un enduit qui là aussi couvrait la pierre. Il s'est fait que, à travers le temps, ce badigeon a dû se salir, évidemment. Il a été recouvert par un autre badigeon sur lequel nous avons des hésitations quant à sa date. D'aucuns le datent du 15e, 16e, 14e, 15e siècle. Je me demande si au moins dans la partie du haut cœur, ce n'est pas un badigeon qui aurait été rapporté. Et c'est un avis qui semble faire l'unanimité au sein de l'Inspection Générale des Monuments Historiques. Un badigeon rapporté par Victor Louis quand il a eu fait son décor, son magnifique décor classique dans le haut cœur. Et enfin, au XIXe siècle, dans les années 1846-1848, un évêque a pris sur lui de faire repeindre entièrement la cathédrale avec un décor ocre aussi, mais à coupe de pierre rouge. Et là, il a été interrompu sur plainte des architectes du ministère des Cultes parce qu'il avait entrepris ses travaux sans aucune autorisation. Donc on l'a arrêté. Il n'en reste pas moins qu'il avait eu le temps d'avancer très vite. On ne sait pas dans quelles conditions. On n'imagine pas qu'il ait monté des échafaudages comme nous en montons. Peut-être les gens travaillaient-ils toujours dans des nacelles suspendues aux voûtes. Bref, peu importe. Toujours est-il que nous sommes actuellement en train de dégager le décor d'origine et nous enlevons très facilement à l'aspirateur et à la brosse douce, les deux badigeons anciens, qui finalement nous révèlent en dessous un décor du XIIIe siècle absolument intact, parce que ces badigeons modernes ont servi de couche sacrificielle qui a accroché, sur lesquelles s'est accrochée la crasse, les poussières, les suies grasses, toute la poussière volatile qui est entraînée, qui est brassée en permanence par le chauffage actuel de la cathédrale. Et notre souci d'inquiétude, c'est que va-t-on faire? Est-ce qu'on va maintenant laisser le décor 13e subir de plein fouet directement tous les risques de pollution actuels, c'est-à-dire le peu de fumée qui sort encore des cierges modernes, et puis surtout le brassage de l'air entraîné par le chauffage? Donc, pour l'instant, l'état de la réflexion est on ne remet pas de couche sacrificielle, parce que on ne sait pas avec nos produits chimiques modernes comment elle vieillira et quel risque elle fera courir à l'homogénéité d'un décor qui est exceptionnel. Et donc, on va directement à la source du problème, on envisage de réfléchir sur le chauffage de la cathédrale. Je n'en dirai pas plus pour l'instant, parce que mon administration vient à peine de me demander de réfléchir à ce problème. Oui, mais qui nous occuperait depuis longtemps.
Oui, parce qu'on vient d'inaugurer le 12 mai 2009 les deux chapelles axiales qui ont retrouvé effectivement ce magnifique décor très clair pour les groupes qui met en valeur les vitraux et réciproquement. Donc il faut absolument préserver cette beauté de la polychromie. Et il serait dommage qu'elle soit recouverte dans quelques années à nouveau d'une couche de poussière qui, cette fois-ci, comme vous dites, va s'attaquer directement à cette peinture d'origine.
À l'enduit, puisque c'est un enduit. Donc, si vous voulez, dans ces deux chapelles, la chapelle d'Aix et la chapelle des Martyrs, il n'y avait plus rien. Tout avait été gratté, et puis gratté violemment, puisqu'on s'est aperçu, en faisant des sondages, que les vestiges de décor peint que nous trouvions sur les murs sous appui, c'est-à-dire les murs qui sont en dessous des baies, étaient en fait des décors du 19e siècle, sans doute fait à partir de 1874. Et ces décors ont été complètement éradiqués, on ne sait pas quand, on n'a pas de traces pour l'instant, mais vraisemblablement entre les deux guerres mondiales. Et on a remis la pierre à nu, on a bien recimenté les joints, etc. Et on s'est retrouvé évidemment avec l'empoussièrement, mais sur la pierre directement, avec évidemment de vagues traces de polychromie qui se sont révélées un peu plus importantes quand on a enlevé toute la crasse. Bon, l'objectif, n'ayant plus aucun vestige d'origine, était de reconstituer ce fameux décor d'origine en enduit jaune à coupe de pierre. On a trouvé suffisamment de témoins pour s'assurer qu'il avait bien existé au moment de la création de la cathédrale. On l'a donc reconstitué, mais littéralement ex nihilo, puisqu'on est reparti sur de la pierre complètement mise à nu. Et on l'a reconstitué selon les principes de tous les témoins qu'on avait vus dans les sondages. Donc ce décor est exact. Sa couleur a été reprise à partir d'un témoin qui a été dégagé sur la voûte du déambulatoire au contact de l'arc doubleau qui donne sur la chapelle des martyrs. Donc on est sûr de la couleur. On sait d'ailleurs du coup que la couleur du sable qui a servi au déambulatoire aux chapelles n'est pas exactement la couleur du sable qui a servi pour les voûtes du haut cœur. Vous voyez, il y a eu des variantes, il y a eu des variations, des problèmes d'approvisionnement, etc.
Ça nous donne l'occasion justement de parler de l'actuelle restauration de la partie haute du cœur, ou du cœur tout court,
du cœur, oui,
qui est nettoyée. Et puis, qu'est-ce qu'on y découvre ? Donc, la même polychromie, ocre jaune, des faux joints en blanc,
exactement.
Et des clés de voûte qui sont...
Les clés de voûte sont peintes, et elles, alors deux choses, les clés de voûte, il y a une théorie de magnifiques clés de voûte qui font 1,44 m de diamètre, ce sont quand même des monstres. On a découvert d'abord la sculpture, la beauté de la sculpture, qu'on ne devinait plus du tout sous l'encrassement parce qu'elles étaient totalement noires, et entre autres la clé de voûte du rond-point du cœur, vous avez une représentation de Dieu le Père entre deux anges qui est sculptée dans la pierre de Bercher, ce qui est extrêmement rare de sculpter dans la pierre de Bercher, qui est une sculpture d'une délicatesse, d'une finesse extraordinaire, et que nous sommes en train de remettre en valeur. Et quant à la peinture, elle est ancienne. On ne la date pas de façon pour l'instant absolument précise, mais au contraire des deux chapelles du déambulatoire que nous avons restaurées à la fin de l'année dernière, et qui sont des peintures, des clés absolument du 19e siècle, on en est sûr par les prélèvements chimiques au niveau de la composition, les clés du grand cœur ont des peintures anciennes. Mais ces peintures étaient dans un tel état d'affaiblissement qu'on les a relevées, refaites complètement.
Thank you.
Nous sommes dans le studio de Radio Grand Ciel avec Patrice Calvel, architecte en chef des monuments historiques. Nous parlions de la restauration de la pierre dans le cœur de la cathédrale de Chartres, mais nous allons maintenant glisser vers notre sujet d'aujourd'hui, les vitraux. Et justement, dans le cœur de la cathédrale de Chartres, nous avons des vitraux qui sont des grisailles du XXe siècle. Je crois que vous connaissez très bien, Monsieur Calvel, l'histoire de ces vitraux qui ont remplacé des vitraux plus anciens.
Oui, parce qu'en ce moment, on mène évidemment en même temps le nettoyage du cœur, le nettoyage des voûtes, du décor et les vitraux. Et les vitraux de ce que nous appelons couramment les vitraux de Burstall, qui sont des grisailles, n'ont été mis en place qu'en 1935. C'est un travail de l'atelier Lorrain. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Bridan a mis en place sa gigantesque Assomption, il s'est plaint que on ne la voyait pas, parce que ces vitraux médiévaux, qui étaient déjà passablement encrassés à l'époque, ne donnaient pas assez de lumière. Donc, il a obtenu qu'on éclaircisse, si vous voulez, le cœur, et on lui a démoli, pour lui complaire, on a démoli, déposé la totalité des bordures de toutes les verrières du haut cœur, c'est-à-dire les bordures qui entourent les grandes, qui font le tour des latérales des verrières et qui entourent les scènes figurées. On n'a pas touché aux roses, ce qui fait qu'elles nous sont parvenues parfaitement intactes avec leurs quatre feuilles périphériques.
Et qui montrent toute la chevalerie française.
Voilà, et qui montrent toute la chevalerie des trois campagnes, des trois croisades contre les Albigeois lancées par le père de Saint-Louis, Louis VIII, qui a régné 3 ans, qui a mené 3 campagnes contre les Albigeois en 3 ans et qui est mort au retour de la dernière. Ceci non pas pour la petite histoire, mais ça fait partie de la grande histoire. Bref, toujours est-il que Bridan, je reviens au 18e, Bridan a continué à se plaindre parce que ces gens-là n'étaient pas simples. Et on voit toujours pas mon Assomption, vous comprenez, c'est pas possible, la lumière ne joue pas dessus, on se rend pas compte de la splendeur, de la volumétrie, enfin bref, j'imagine tout ce qu'il a pu raconter. Et donc, de guerre lasse, les chanoines qui quand même devaient lui opposer une certaine résistance, on finit par admettre qu'il fallait démonter une verrière sur deux. Et on a démonté des verrières historiées, qui avaient été peu ou prou dessinées d'ailleurs au XVIIe siècle par le célèbre collectionneur Gagnère. Et depuis, on a perdu de vue totalement ces panneaux, mais on les a remplacés par du verre blanc. Et ça a duré jusqu'aux années 30, où Rockefeller, un jour, en venant visiter la cathédrale de Chartres, a dit « mais c'est pas possible, il faut reconstituer la cohérence complète du décor médiéval et je m'offre à le financer ». Donc l'administration a dit « ben d'accord, nous acceptons la proposition, il va falloir l'étudier, bien sûr, on fait pas ça n'importe comment avec n'importe qui ». On a donc fait appel à Lorrain. Lorrain a fait une proposition qu'on connaît bien, puisque les essais sont conservés, n'est-ce pas, au Centre international du vitrail. Et au bout du compte, la commission supérieure, voyant des vitraux néo-gothiques installés, a dit c'est un travail remarquable, mais c'est un travail tellement remarquable que vraiment on met en place des faux et que le public, comme les fidèles, ne pourront plus jamais voir ce qui est authentique ou ce qui ne l'est pas dans les verrières du haut cœur. Donc c'est non. Donc Monsieur Rockefeller est reparti avec ses moyens financiers. Lorrain a gardé les verrières test qu'il avait faites. Et la commission supérieure a dit « mais il faut effectivement, on ne peut pas laisser ces verres blancs qui sont pitoyables. On va faire une création contemporaine. » On a demandé à Lorrain de faire une création contemporaine. Et lui, c'est assez étonnant, en fait, création contemporaine, comme il déambulait évidemment longueur de journée dans la cathédrale, il s'est aperçu qu'il y avait un très bon modèle qui était la B19 du déambulatoire, qui est une superbe grisaille du XIIIe siècle, et il s'est contenté de copier la grisaille du XIIIe siècle à l'échelle des baies plus hautes et de les répartir. Mais il a quand même fait un travail tout à fait contemporain, puisqu'au lieu d'utiliser les verres habituels, il a utilisé les verres de son confrère Burstall, qui était un inventeur fou, un espèce de Tryphon Tournesol du verre à vitrail, et qui avait inventé une façon de couler le verre tout à fait nouvelle, qui faisait des expériences en permanence. Et Lorrain a donc fait les grisailles du haut cœur avec le verre de Burstall. Donc il a relié finalement d'une façon très habile et la tradition en reprenant une grisaille et la contemporanéité en employant un matériau qui était censé considérer comme à l'avant-garde.
Mais qui était un peu laiteux, non ? C'est un verre
qui était variable, c'est une expérience qui surfait un petit peu sur tous les verres américains qui avaient été inventés, avec des verres qui ont des matières, des aspects de surface plus ou moins travaillés, mais qui relèvent de process industriels, alors que Burstall, lui, faisait ses coulées à la main très artisanalement. C'était des toutes petites plaques qu'on redécoupait après. C'est un travail. Et il mettait un petit peu de tout dans ses verres. Alors, il mettait de la cendre, il mettait des bouts de bois, des morceaux de verre, de déchets de coulage, etc. Donc, on ne maîtrise pas du tout la chimie réelle de ces produits, de ces verres. Mais bon, pour l'instant, il s'avère qu'ils ont assez bien résisté. Comme ils vont être protégés par les verrières de doublage extérieur au même titre que les verrières du XIIIe siècle, on est sûr de les faire durer encore longtemps. Mais par contre, on a le sentiment, dans l'état actuel des recherches, que leur processus de dégradation n'est pas maîtrisable. Et que si on ne les protégeait pas comme on va le faire, ils seraient appelés à disparaître très vite.
Alors, après ces Evitrou-Burgstall, d'ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas pu retrouver les anciens panneaux ? Non, parce qu'à la Révolution, on les a détruits pour récupérer le plan.
On ne sait pas où ils sont passés. En fait, ils ont dû plus ou moins se disperser dans divers ateliers. Il y en a peut-être encore quelque part, on ne sait pas où. Ils ont dû servir, vous savez, c'était des fonds que les ateliers ont toujours eu et qui leur servaient d'avoir pour réparer les vitraux anciens. Donc, il n'est pas impossible que dans les verrières qui subsistent, il y ait des éléments réemployés de ces verrières-là qui ont servi de bouche-trou, comme on dit dans le jargon des maîtres verriers, parce qu'on trouve quelquefois des remontages étonnants où, vu la distance, les verrières sont entre 18 et 30 mètres de haut. L'important, c'était de redonner la bonne couleur, mais quand vous les avez à la main, vous vous apercevez que la couleur, il y a déjà de la peinture dessus, qu'il y a des cagets mouches, des grisailles, Donc, ils ont servi beaucoup à ça, et les dessins de Guénière faits au XVIIe sur lesquels se fondait Rockefeller sont incomplets. Ils ne représentent jamais totalement aucune des verrières démontées. Il avait fait des relevés ponctuels qui sont bien connus, que Bulteau et tous les érudits qui ont travaillé sur la cathédrale ont recensé, yeah, mais qui ne permettaient pas, si vous voulez, une reconstruction, une restitution complète et certaine.
Voilà, donc on montre la bordure, le donateur au bas de la verrière, voilà, et l'atelier Lorrain de Chartres aussi, pu faire des dessins préalables à échelle réduite.
Après, avec son expérience, il a fait des dessins, et ensuite il a réalisé une verrière en reconstituant, grâce à son expérience, à sa connaissance des vitraux du XIIIe, en reconstituant une verrière complète.
Nous sommes à Radio Grand Ciel avec Patrice Calvel, architecte en chef des monuments historiques. Nous parlions de la restauration des vitraux et surtout aussi du projet qu'avait été soumis à la cathédrale au début du XXe siècle par Rockefeller de refaire à l'identique des vitraux du XIIIe qui avaient été déposés par les chanoines au XVIIIe siècle sur demande du sculpteur Bridan. Ceci nous amène à parler peut-être maintenant de la restauration terminée de la Rose Sud qui va être à nouveau visible par les visiteurs de la cathédrale de Chartres.
Elle est déjà visible à l'extérieur puisque les verres de doublage qui protègent la rose originale sont en place, donc elle a été dégagée des échafaudages à l'extérieur, mais elle est déjà un petit peu visible effectivement à l'extérieur puisqu'on a déposé les filets de protection de l'échafaudage intérieur. Au demeurant, d'ici quelques semaines, les lancettes, les 5 lancettes qui sont en dessous vont être à leur tour remises en place. Donc, dans quelques semaines, on reverra intégralement ce décor de vitrerie à l'intérieur du bras de transept sud.
Alors, on parlait des vitraux Burgstall et puis d'une copie faite par l'atelier Lorrain d'un vitrail qui est cette copie visible au Centre international de vitrail. Donc, si les auditeurs sont intéressés par ce travail réalisé par l'atelier Lorrain, ils peuvent donc le découvrir au Centre international de vitrail qui va d'ailleurs en octobre 2009 et en mars 2010 organiser les journées d'études culturelles sur la matérialisation et la dématérialisation de la lumière et la production-réception de la lumière dans l'architecture médiévale. Donc, si vous voulez participer à ces journées d'études, je vous donne le numéro de téléphone du Centre international du vitrail, 02 37 21 65 72. Mais tout de suite, on va retrouver Patrice Calvel qui va nous parler peut-être du financement de ces importantes campagnes de restauration des vitraux qui payent, par exemple, pour les lancettes du transept sud.
Alors, énormément de mécénats, en fait. C'est l'État qui est normalement propriétaire, si vous voulez, de la cathédrale et qui devrait donc en assumer la totalité des frais. Mais grâce à deux associations, Chartres Sanctuaire du Monde et puis l'Association des Amis de la Cathédrale, il y a le rappel et le regroupement d'énormément de donateurs, aussi bien des industriels que des particuliers, et quelquefois des particuliers en très grand nombre, puisque la rose sud, la grande rose du transept sud, a été restaurée grâce à plusieurs centaines de donateurs qui ont donné des petites sommes.
Quel est le coût de la rose, par exemple?
Le coût de la rose doit être de approximativement 150 000 euros, tout compris.
Avec le vitrage de protection va désormais protéger le verre du Moyen-Âge contre les intempéries et la pollution. Alors, comment est-ce qu'on nettoie d'ailleurs les vitraux quand on les dépose, panneau par panneau?
On les nettoie panneau par panneau avec évidemment on les dépoussière et puis on utilise des produits chimiques. Différents pour la face interne et pour la face externe. À l'intérieur, on nettoie on enlève surtout les poussières, si vous voulez, et les encrassements superficiels en faisant très attention à ne pas attaquer la peinture, c'est les fameuses grisailles qui sont peintes directement sur le verre et qui sont plus ou moins solides. Par bonheur, à Chartres, elles sont globalement à 90% très solides. Donc, on n'a pas de problème majeur de protection de la peinture. Le hasard fait que on a des soucis actuellement parce que au 19e, on a souvent eu tendance à mettre des patines sur l'intérieur pour assombrir les vitraux, parce que le goût romantique du 19e et même du 20e siècle, c'était d'avoir des vitraux pas trop clairs, alors qu'au Moyen-Âge, ils étaient en réalité très clairs. Il y a eu des polémiques d'ailleurs très violentes dans les années 70 sur ce sujet, le fameux bleu de Chartres, le bleu de Chartres qui n'est d'ailleurs pas unique, qui est variable, un petit peu variable d'une verrière à l'autre quand ce n'est pas d'un panneau à l'autre. Nous avons plusieurs dominantes qui jouent plus ou moins sur des bleus-gris, sur une palette de bleus-gris. Et à l'extérieur, par contre, on utilise des produits pour enlever les produits de corrosion qui se sont agglutinés sur la façade des pièces de verre et qui les attaquent et qui les corrodent et qui les piquent. Et on se retrouve avec de véritables petits cratères à l'intérieur des pièces de verre qui se remplissent de gypse, qui se remplissent de sulfate, qui se remplissent de tout ce que transporte l'atmosphère. On arrive à les extraire en grande partie. On les extrait jamais totalement pour ne pas continuer à attaquer la masse vitreuse, mais on élimine pratiquement 90% de l'opacification qui s'est fait sur les vitraux à l'intérieur comme à l'extérieur, et on se rapproche vraiment au maximum de ce qu'était la luminosité de ces verrières au Moyen-Âge. Mais on ne la retrouve pas intégralement, à tout le moins dans l'état actuel de nos moyens techniques, parce que il y a des techniques qu'on ne veut pas utiliser car on n'en connaît pas encore la nocivité à terme. En particulier ce que nous appelons le brunissement, qui est le virage du manganèse à l'intérieur de la masse vitreuse, manganèse qui était contenu en réalité dans la fougère qui servait à la fabrication du verre. Quand des micro-fissures permettent à l'eau de s'infiltrer, elle fait virer le manganèse et vous vous retrouvez avec des visages qui sont complètement bruns ou des parties de verrières qui sont complètement brunes. On sait le faire. Il existe une technique, une chimie qui permet d'éradiquer cette couleur, mais 9 fois sur 10, elle revient. Ce sont les tests que nous faisons actuellement à Saint-Pierre-de-Chartres ou le manganèse revient au bout de quelques années, mais nous poursuivons les tests. Et si on l'enlève complètement, selon une autre méthode mise au point par des chercheurs allemands, nous ne connaissons pas sa qualité, enfin nous ne connaissons pas sa durabilité, et nous ne savons pas quels effets induits elle peut avoir sur le verre, et nous ne pouvons pas prendre le risque de perdre ses vitraux, donc on préfère avoir un Salomon avec une tête tout à fait syrienne ou africaine, mais il est là. Et à la limite, ce virage de la couleur fait aussi partie de l'histoire. Mais ça, évidemment, c'est l'argument de facilité.
Oui, mais on a du mal à imaginer que le verre, qui pour nous est un matériau solide, puisse virer vers une autre couleur. Mais effectivement, c'est le cas, puisque le Christ est aujourd'hui habillé parfois de brun, alors que c'était absolument pas la couleur d'origine. Ce qui peut fausser la lecture des vitraux, où les couleurs pouvaient aussi avoir une très importante valeur symbolique.
Ah bah tout à fait.
Alors, est-ce qu'il faut toujours remplacer les plombs qui enchâssent, qui assemblent les morceaux de verre?
Le problème est double. Le vitrail, c'est un art qui se restaure avec ses propres techniques de création, donc avec des bandes de plomb. Et chaque fois qu'un verre se casse, en général, on gruge un petit peu les deux côtés du verre et on met en place un plomb entre les deux qui les relie et qui les retient, qui les maintient. Et on est arrivé évidemment à multiplier au cours des temps, parce que les vitraux étaient très entretenus dans le temps, on arrive évidemment à multiplier la quantité de ce qu'on appelle les plombs de casse qui solidifient l'ensemble, qui le maintiennent en place, mais qui en échange lui font perdre de sa luminosité et surtout perturbent le dessin. Surtout les verrières du haut cœur, par exemple, c'est peut-être moins frappant sur les verrières du déambulatoire, mais c'est très violent au niveau du grand cœur, parce que les pièces de verre, les pièces peintes, étaient de très grande taille. Donc quand elles sont constellées de plomb de casse, parce qu'elles ont été plusieurs fois fracturées, soit par des oiseaux qui sont rentrés dedans, soit par les gens qui tiraient à la fronde ou à la flèche, puisqu'on a des textes médiévaux mettant des gens à l'amende parce qu'ils ont abîmé les vitraux en tirant les oiseaux. Donc vous voyez, on sait, les vitraux souffraient beaucoup, et ils ont été constamment entretenus et constamment renforcés. Alors l'autre défaut de ces plombs de casse, c'est qu'ils alourdissent énormément les panneaux, et on a des problèmes extrêmement difficiles. J'ai passé un temps considérable dans les ateliers à décider avec le maître verrier restaurateur ce qu'on enlève ou ce qu'on n'enlève pas. On dégage systématiquement les visages, mais maintenant on dégage aussi beaucoup les peintures même des vêtements, la peinture, pour qu'on rende au jour, si vous voulez, l'étourdissante virtuosité des peintres médiévaux.
C'est le mot final. Merci beaucoup, Patrice Calvel. Il faut se retrouver sur ce même sujet dans d'autres émissions. C'est absolument passionnant. On n'a pas épuisé le sujet.
Très
merci
volontiers.
Beaucoup. Au revoir, chers auditeurs de Radio Grand Ciel.